This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Un jeune homme de 38 ans qui décède à Montpellier ne laisse pas grand-chose comme trace historique, mais il se trouve que ce jeune homme est le père de plusieurs enfants dont l'un est devenu empereur des Français et dominateur de l'Europe. Alors évidemment, cela contribue à braquer la recherche historique sur sa vie et sur ses origines et sur la façon dont il a contribué à façonner la jeunesse de cet empereur. Ce jeune homme de 38 ans qui décède à Montpellier, c'est Charles Bonaparte. Il est né à Ajaccio en 1746 et il décède donc à Montpellier en 1785. Un Corse d'Ajaccio dont nous allons voir au cours de cette émission qu'il a participé aux tribulations politiques de cette France du XVIIIe siècle, et nous allons voir aussi qu'il y a eu beaucoup de légendes, d'erreurs également qui ont été véhiculées sur la vie de Charles Bonaparte, que nous allons justement démythifier au cours de cette émission avec mon invité Michel Verger-Franceschi, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être revenu même à notre micro, puisque je vous avais invité pour une précédente émission pour votre ouvrage consacré à Surcouf et au monde corsaire, et vous venez de publier une biographie de Charles Bonaparte qui est parue chez Passé Composé, le père donc de Napoléon Ier. Alors évidemment, c'est toujours comme ça qu'on le présente, hein, c'est le père de Napoléon Ier. Tout le monde n'a pas eu comme enfant un empereur. Mais justement, en comprenant Charles Bonaparte, on comprend un petit peu mieux Napoléon. Et la première chose que vous montrez, c'est le fait, enfin, c'est les origines sociales de Charles Bonaparte. Ce n'est pas un enfant du peuple, c'est quelqu'un qui est installé dans la notabilité d'Ajaccio.
Tout à fait. Charles Bonaparte fait partie de ce que l'on appelle aujourd'hui les élites, une sorte d'oligarchie à la fois corse et ajaccienne. Il faut se remettre toujours, quand on fait de l'histoire, dans le contexte d'une époque, et donc Ajaccio, en 1769, lorsque naît Napoléon, dans la nuit du 15 au 16 août 1769, c'est une petite ville, 4500 habitants, donc il faut se remettre dans la peau de cette petite ville, et il y a quelques notables, dont Charles Bonaparte, qui tiennent la ville, c'est-à-dire dans ce port où il y a beaucoup de pêcheurs, où il y a beaucoup de calfats, de constructeurs de navires, de marins, d'hommes du peuple. Eh bien, il y a un petit groupe de familles, dont les Bonaparte, qui est le seul de son nom avec son oncle, alors qu'il y a par exemple 14 chefs de famille Pozzo di Borg à la même époque. Les Bonaparte ne sont que deux, lui et son oncle, Don Luciano, qui est le curé d'Ajaccio, qui deviendra bientôt archidiacre en 1779 de la cathédrale. Et on ne travaille pas de ses mains, ce qui est un statut nobiliaire si on pense en termes de royaume de France, et on tient la ville, c'est-à-dire qu'on fait partie du conseil des Zanzian, les anciens, l'équivalent du maire et du conseil municipal, ceux qui décident de la place du cimetière, ceux qui décident des travaux à faire à l'église ou des travaux de fontaine et d'adduction d'eau, de nettoyage des rues. Et on a du personnel chez Charles Bonaparte, il y a des domestiques, il y a femmes de chambre, il y a bonne à tout faire. Et puis, il y a les terres, ce sont des propriétaires. Et par conséquent, on a des vaches, on a des troupeaux à la montagne, à Bocognan en particulier, en ce qui concerne l'oncle Don Luciano. On a des chèvres, on a des brebis, et on vit en autarcie. Napoléon le dira lui-même, il n'y avait pas d'argent dans la famille. On faisait des échanges. Les cousins de la montagne descendaient régulièrement le cabri, le lait, les fromages. Et les Bonaparte, qui produisent un excellent vin dans la plaine, eh bien, donnent en échange du vin et reçoivent du lait. Et l'argent n'est utile que pour acheter quelques produits extérieurs, en particulier le chocolat. On trouve dans l'inventaire après décès de Charles Bonaparte, j'aime beaucoup travailler toujours sur les inventaires, sur les sources notariées, on trouve une chocolatière, donc on boit du chocolat chaud à Ajaccio dans ces années 1750-1760. Il a de très beaux meubles, il a une très belle argenterie, il a un statut d'avocat, il est docteur en droit, Charles Bonaparte, il a fait des études, et il a passé un doctorat à l'université de Pise. C'est tout à fait le notable de la fin du XVIIIe siècle avec de beaux habits et on a mis sur la couverture du livre un très très beau portrait avec cet habit rouge qui est un habit tout à fait digne de la noblesse provinciale française.
Que représente Ajaccio dans cette Corse du milieu du XVIIIe siècle et d'ailleurs, si on peut très rapidement aussi faire un petit point de situation sur la Corse au XVIIIe siècle, qui est partagée entre Gênes et la France.
Voilà, la Corse au XVIIIe siècle devient un enjeu parce que c'est une île. C'est une île géostratégique particulièrement importante. Elle a été disputée au cours des siècles aussi bien autrefois dans l'Empire romain entre les Romains et les Carthaginois par exemple, et puis après elle a été disputée entre déjà la France et la plus grande puissance du monde qui était à cette époque la monarchie espagnole, il vaut mieux dire la monarchie espagnole que l'Espagne, parce que l'Espagne c'était aussi le Mexique, c'était aussi le Pérou, c'était aussi le Chili, c'était aussi les Philippines, donc la monarchie espagnole s'intéressait beaucoup, l'Aragon en particulier, à l'île de Corse. Et au XVIIIe siècle, du temps de Charles Bonaparte, la première puissance du monde est la France, mais talonnée de très très près par une deuxième puissance qui est une puissance maritime comme la France, qui est l'Angleterre. Et donc les Anglais ont pris Gibraltar en 1704, espérant transformer la Méditerranée en lac anglais. D'ailleurs, ils y sont en partie arrivée, puisqu'après la prise de Gibraltar, eh bien, Toulon, premier port de guerre français, va laisser la place à Brest, qui sera le premier port de guerre français en 1789, et Marseille, qui était le premier port de commerce français, va également être dominé par Bordeaux, qui sera le premier port de commerce français en 1789. Donc on a un déclin de cette Méditerranée. Les Anglais, après Gibraltar, ont pris Minorque en 1707, qui leur a été reconnu au traité de la paix d'Utrecht en 1713. Et lorsqu'on arrive au moment de la naissance de Napoléon, Napoléon le dira lui-même dans le mémorial de Sainte-Hélène, à Las Cases, dans les années 1816-1820, il le dira, il n'y avait que deux partis en l'île de Corse, un parti anglais et un parti français. Et Charles Bonaparte va être considéré par une partie des Corses, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs parfois, comme un traître, puisqu'évidemment il va faire un choix, qui est un choix d'ailleurs dicté par la famille de Laetitia, qui est le choix du roi, qui est le choix de Louis XV, et non pas le choix de Georges III d'Angleterre, qui sera le choix de Pascal Paoli.
Ajaccio, comment se situe cette ville par rapport aux autres villes de Corse ? Quelles sont les grandes villes importantes en Corse au XVIIIe siècle ?
Alors, l'île,
et Bastia
Oui, l'île de Corse, c'est un sol, c'est un territoire bon, qui, comme toute île, est évidemment bien délimité et a des frontières naturelles, des frontières maritimes. Et les Génois y ont installé quatre présides. Bonifacio, donc tout à fait au sud, qui est un site merveilleusement stratégique parce que c'est en face de la Sardaigne, donc les bouches de Bonifacio permettent de verrouiller tout un espace en Méditerranée. Et puis, beaucoup plus tard, il y a eu Bastia qui Lorsqu'on prononce le nom de la ville en Corse, on comprend tout à fait ce que c'est la forteresse, comme la Bastille de Paris de 1789, puisqu'en Corse, on vous dit Bastilla, les Corses vous disent « je vais in Bastille » et non pas à Bastia, et donc c'est la forteresse, la capitale, c'est Bastia. Et puis, il y a Calvi, qui date à peu près comme Bastia du XIVe siècle. Ajaccio, un peu plus tardif, la ville a été créée par les Génois en 1492. Ce qui est assez amusant, c'est que c'est le même jour que les capitulations de Santa Fe qui font que Isabelle de Castille a permis à un certain Christophe Colomb d'embarquer pour aller découvrir des îles. Bon, ce sera Hispaniola, ce sera le début de l'aventure américaine. Et donc Ajaccio est un préside génois qui a été créé en 1492 par des Génois, une centaine de familles qui sont arrivées assez souvent de la péninsule italienne, bien entendu, de Cerisole, par exemple. Donc les gens qui arrivent de Cerisole s'appellent toujours aujourd'hui Chiarisoli, avec la prononciation corse. Et les Bonapartes sont arrivés au tout début de la fondation de ce préside. Ils sont arrivés vers 1511-1514. Et le premier Bonaparte était une sorte de lieutenant de police monté dans une petite ville de 500 habitants. Il n'y avait qu'une rue, qui était la rue droite, qui amenait à la mer. Et le premier Bonaparte était donc un Ligure qui arrivait de Sarzane. Sarzane, c'est en Italie, à la frontière de la Toscane et à la frontière de la Ligurie. Et c'est donc un Ligure qui a un rôle de police et c'est un petit préfet, si vous voulez, dans une ville de 500 habitants. Il fait régner l'ordre. Et donc, lorsqu'il va mourir, ce premier Bonaparte, dans les années 1530, eh bien, Gênes enverra donc un successeur immédiatement, parce qu'il faut quelqu'un pour faire régner l'ordre en ville. Et alors, les premiers habitants d'Ajaccio étaient purement génois. Ils avaient fortifié la ville, et ils interdisaient aux non-génois d'entrer dans la ville, notamment au moment des pirates barbaresques et au moment des razzias. D'où l'opposition très ancienne entre les Bonaparte et les Pozzo di Borg, qui, eux, étaient des Corses qui étaient là depuis le Moyen-Âge au moins. On les retrouve là déjà à 4 km d'Ajaccio. Et lorsque ces Corses voulaient se protéger des razzias barbaresques et demander aux Ajacciens « laissez-nous entrer dans cette ville fortifiée », eh bien, les premiers Bonaparte refusaient donc que des Corses viennent s'y réfugier, d'où peut-être la naissance d'ailleurs de l'opposition entre Napoléon un jour et Pozzo di Borg plus tard, qui sera son principal adversaire.
Alors vous avez évoqué cette rupture entre Charles Bonaparte et Paoli, puisque l'un fait le choix de l'Angleterre et l'autre de la France. Pour quelle raison Paoli choisit-il le roi d'Angleterre ?
Alors Paoli, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus vieux du point de vue générationnel que Napoléon. Ça, on l'oublie souvent. On me demande régulièrement quels étaient les rapports entre Napoléon et Paoli. Il ne faut pas oublier que Paoli, il était plus âgé que les grands-parents de Napoléon. Donc, on a vraiment trois générations. Paoli a même plus de 20 ans, 21 ans de plus que Charles Bonaparte, le père de Napoléon. Donc, c'est l'équivalent d'un grand-père. Alors, Paoli dira lui-même à la fin de sa vie qu'il a suivi les engagements de son père. Et ce sont des engagements apparemment stuartistes. Les Corses ont été très très proches de l'Écosse très tôt, dès le XVIe siècle. Et ils aidaient d'ailleurs la France, puisque l'Écosse permettait à la France de prendre en tenaille l'Angleterre. Et la Corse permettait à la France de prendre en tenaille les liaisons entre Barcelone et Gênes. Et donc cette nécessité pour la France de lutter aussi bien contre l'Angleterre que contre l'Espagne, fait que les deux gardes qui existaient du temps des Valois en France auprès du roi, c'était la garde écossaise avec des gens comme Montgomery par exemple, et puis la garde corse avec des gens comme Sampiero Corso. Et par conséquent, des gens comme Paoli, ils étaient proches, le père de Paoli, ils étaient proches des Écossais, et ces Écossais stuartistes, eh bien, c'était des catholiques. Et ce que n'ont pas vu les gens comme les Paoli, c'est que à partir de 1707, il n'y a plus vraiment d'Écosse. Et l'Écosse, par le traité d'union avec l'Angleterre, qui est passé en 1707, eh bien, ça devient le Royaume-Uni. Et c'est ça l'erreur de Paoli, c'est de rester fidèle à une Écosse catholique. La Corse est extrêmement catholique. Et il ne voit pas très bien qu'elle est dominée depuis 1707 par une Angleterre protestante. Et il va faire un choix qui était forcément voué à l'échec. C'est le choix de Paoli, c'est le choix de Pozzo di Borgo, c'est l'alliance avec une puissance que les Corses, et en particulier les femmes corses, regardaient comme huguenotes, regardaient comme hérétiques. On trouve souvent le terme d'hérétique. Et par conséquent, le choix avec l'Angleterre a été un choix de circonstance, mais il ne pouvait pas durer. Et donc Charles Bonaparte, qui est le neveu d'un curé, futur archidiacre en 1779, eh bien, fait le choix de la France, pour une raison d'ailleurs bien simple et que personne n'avait jamais évoqué, et que j'évoque pour la première fois dans ce livre, c'est que Laetitia, elle a un grand-père qui est vivant du temps de l'enfance de Napoléon, qui est un notaire très important en Corse, qui est Pietrasanta. Et Pietrasanta a son cousin germain, avec lequel il est extrêmement proche, qui est un certain Agostino Sorba. Et alors, Sorba, c'est le ministre de Gênes à Versailles, et c'est lui qui a signé le traité de 1768, qui a permis à Louis XV un exercice provisoire de sa suzeraineté sur l'île de Corse. Et donc, Carlo, il est pieds et mains liés par le grand-père de Laetitia, par ce grand-oncle de Laetitia. Il n'y a pas d'autre femme en Corse qui est un ministre de Gênes, ambassadeur de Gênes à la cour de Versailles, dont le père était lui-même ministre de Gênes à Versailles et qui avait été le seul Corse présent à Versailles lors de la mort de Louis XIV en 1715. Donc c'est une femme unique en Corse.
Vous montrez également dans l'ouvrage la façon dont Charles s'est préoccupé de l'éducation du jeune Napoléon. Il a eu beaucoup d'enfants avec son épouse, il y a eu 14 enfants, tous n'ont pas survécu. Mais est-ce qu'il a, dès le départ, misé sur Napoléon? Parce qu'il n'est pas l'aîné, il y a Joseph. Donc est-ce qu'il a misé sur les deux, Joseph et Napoléon, ou est-ce que dès le départ, il a vu qu'il y en a peut-être un qui avait plus de facilité que les autres?
Oui, vous avez entièrement raison. Napoléon est beaucoup plus doué, beaucoup plus autoritaire que Joseph, qui est un peu effacé, qui n'a que 16 ou 17 mois de plus que le petit Napoléon. Et dès l'enfance, Napoléon jouait, comme le fera d'ailleurs plus tard le général de Gaulle, pour représenter un pays, représenter une puissance. Ce genre d'enfant donne de grands politiques. Et Napoléon, donc, voulait incarner Rome. Et il obligeait, dans la cour de récréation de son école à Ajaccio, il obligeait son frère aîné Joseph à représenter Carthage, puisqu'on était élevé en latin à l'époque, Carthago de l'Inde Est, hein, Carthage doit être détruite, et par conséquent, son frère devait être le vaincu, bien que l'aîné, et lui devait être le vainqueur. Et donc, ce qui est très intéressant chez Charles Bonaparte, le père, c'est de voir qu'il a été ce que l'on appelait dans ce dernier tiers du XVIIIe siècle un père citoyen. Alors, qu'est-ce qu'un père citoyen ? Eh bien, c'est un père très moderne. C'est quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, qui les élève, qui fait construire une petite cabane en bois sur la terrasse de la maison pour que Napoléon puisse s'isoler de façon à faire par plaisir des mathématiques. Napoléon faisait des problèmes pour savoir combien de temps il fallait au moulin de son grand-oncle pour moudre telle quantité, par exemple, de grains, de blé. Et donc, Charles va accompagner lui-même en personne ses enfants, portant très loin, au collège d'Autun, au fin fond de la Bourgogne. Il va acheter lui-même leurs affaires, leurs vêtements à Paris, chez des tailleurs, aussi bien pour être collégien à Autun, ce qui est le cas de Joseph et un petit peu de Napoléon, que des uniformes militaires pour l'école militaire de Brienne pour Napoléon. C'est un homme moderne, c'est un homme jeune. J'ai même été agréablement surpris de voir que l'un de ses premiers gestes en tant qu'avocat à Ajaccio, c'est de s'intéresser à une jeune fille de 16 ans, une adolescente qui a été violée, et qu'il incite a porté plainte pour viol. Et quand on voit aujourd'hui ce genre de choses, il faut dénoncer ce genre de crime, eh bien, on est agréablement surpris de voir que Charles Bonaparte est vraiment un homme extrêmement moderne. Et ça pèsera sur l'esprit de Napoléon lorsqu'il fera avec Portalis, par exemple, le code civil.
D'où vient ce prénom très curieux de Napoléon ? C'est un prénom de la famille Bonaparte ?
Oui, alors le prénom de Napoléon ou de Nabulion, c'est un prénom qui vient de Naples. Hein. C'est napolitain, en fait. C'est un prénom d'origine napolitaine. Et donc, en Corse, il appartenait à une famille d'origine génoise, très très grande famille, les Lomellini. Et les Lomellini, ce sont ceux qui ont le monopole du corail en Méditerranée. Ce sont des gens très puissants. Le premier à s'installer en Corse est le fondateur d'ailleurs de Bastia, Leonello Lomellini, en 1376. Et il y a 14 Napoléon dans la famille Lomellini, dont un sera le parrain de l'arrière-grand-père de Napoléon, Sebastiano Bonaparte. Et ce prénom donc apparaît pas comme un prénom porté par un Bonaparte, mais par le parrain d'un Bonaparte. Mais par contre, à la génération suivante, eh bien, l'oncle de Napoléon s'appelle déjà Napoléon. Il meurt à Corte en 1767, quinquagénaire. Ce n'est pas un prénom très courant, parce que quand on lit le registre paroissial de 1767, on voit que le curé a eu beaucoup de mal à écrire, pour la mort de ce grand-oncle en 67, Napoléon, Napoléon. Bon, le prénom est raturé. Et Laetitia aimait beaucoup cet oncle de son mari, qui est mort peu avant la naissance de Joseph, et c'est elle qui a voulu imposer le prénom de Napoléon, donc à son deuxième fils.
Qui ensuite est devenu le nom du dynastie, mais ce n'était pas prévu, évidemment, à l'origine. Revenons un petit peu sur l'éducation de Napoléon, vous l'avez dit, ce père citoyen, cet enfant qui apprend le grec et qui est pétri de romanité. On le voit d'ailleurs, Napoléon, lorsqu'il a exercé l'Empire, il est en quelque sorte le dernier empereur romain, même dans le tableau que lui consacre Ingres, en costume impérial, c'est Jules César que l'on représente.
Tout à fait. Cette fin du XVIIIe siècle était extrêmement pétrie de romanité. D'ailleurs, pendant très longtemps, dans les lycées, comme le lycée, le futur lycée Louis le Grand, qui était l'ancien collège de Clermont, collège jésuite de Paris, l'enseignement se faisait en latin, de façon à ce que l'enfant ne soit pas perverti, disaient les jésuites, par les mauvaises mœurs des adultes, notamment une connaissance de la sexualité trop tôt. Donc ils étaient élevés en latin, on lisait en latin, Charles Bonaparte avait une magnifique bibliothèque qui était la plus importante de Corse, visiblement avec celle des couvents, plus de 1000 volumes, ce qui était quand même considérable pour l'époque. Et la terminologie que l'on utilisait à la fin du XVIIIe siècle était devenue une terminologie latine. Le mot de res publica, qui donnera le nom de république à partir de septembre 1792. Lorsqu'on parle de tribun qui avait une grande voix d'orateur comme Mirabeau qui d'ailleurs était d'origine corse, puisque son arrière-grand-mère était du Cap Corse, c'était une Giovanna Lynch, eh bien on l'appelle le tribun du peuple. Et cette romanité va donner des mots comme consul, bon, qui est un ancien mot romain, premier consul, qui sera une des grandes fonctions de Napoléon avant l'Empire, et puis le mot d'empereur, et que Napoléon incarnera d'ailleurs plus en tant que imperator au sens latin du terme, c'est-à-dire général victorieux, que chef politique. Donc c'est à la fois un combattant et c'est à la fois un impérator et un empereur. Et on est dans cette reproduction de l'époque romaine, avec une Rome qui avait été une Rome royale, donc jusqu'en l'assassinat de Tarquin, puis après une Rome républicaine, et après une Rome impériale à partir d'Auguste. Et donc, on est un peu dans la même situation. Après 1789, eh bien, l'époque royale a disparu. L'époque républicaine de 1792 est plus ou moins conservée sous Napoléon. Et on a une France impériale à partir du 2 décembre 1804.
Charles met ses enfants, enfin, notamment Joseph et Napoléon, à l'école de Brienne. Il avait comme objectif d'en faire des soldats, des officiers militaires.
Alors Napoléon va partir à Brienne, comme le fera ensuite son frère Lucien en 1784, puisqu'on n'avait pas le droit d'avoir deux enfants boursiers en même temps à l'école de Brienne. Donc lorsque Napoléon quittera Brienne, c'est son frère cadet qui pourra utiliser la même pension offerte par le roi pour y faire ses études. L'ambition des parents dans la noblesse, puisque Charles Bonaparte a été maintenu noble par Louis XV en 1771, il fait partie d'à peu près 120 familles insulaires qui ont reçu un arrêt de maintenue de noblesse. Eh bien, Charles s'est posé la question, que deviennent les enfants de la noblesse sur le continent? Eh bien, où ils sont d'église? Alors, s'ils sont d'église, ce sont plutôt des cadets, ou s'ils n'ont pas un caractère très belliqueux, ce qui était le cas de Joseph Bonaparte, l'aîné, donc on va plutôt en faire un prêtre. S'ils ont une malformation comme le pied beau de Talleyrand, eh bien, on va en faire aussi un prêtre et notamment un évêque d'Autun. Bon, il succédera à Autun, Talleyrand, à Monseigneur de Marbeuf, qui était le protecteur des enfants de Charles Bonaparte à Autun, puisqu'il était évêque donc, du diocèse. C'était lui-même le neveu du comte de Marbeuf, qui était le gouverneur de Corse à cette époque-là. Donc, un devait être d'église, c'était plutôt Joseph. Celui qui était plutôt espiègle, qui était plutôt très combatif, c'est Napoléon. Donc, on allait en faire un officier, on allait en faire un militaire. Et la déception du père, c'est de voir que Joseph s'est rétracté dans le choix qu'on voulait lui imposer. Il n'a pas voulu être prêtre, il l'a fait savoir au moment où il a eu une sexualité naissante en tant qu'adolescent, vers 15 ou 16 ans. Et à ce moment-là, il fait savoir qu'il ne veut pas prononcer des vœux. Et Napoléon, d'ailleurs, le regrette, parce que Marbeuf s'apprêtait à lui offrir un bénéfice, c'est-à-dire un revenu ecclésiastique. Et Joseph n'en a pas voulu. Il y avait déjà Fesch, le demi-frère de Laetitia, qui était d'église, qui était au séminaire d'Aix-en-Provence. Donc, ça paraissait suffisant d'avoir un prêtre dans la famille. Et on n'en avait peut-être pas besoin d'en avoir un deuxième.
Fesch d'ailleurs qui ensuite est devenu cardinal. Donc, oui. Les relations avec Bonaparte ont été un peu compliquées.
Alors Fesch, c'est quand même très très amusant cette histoire parce que ça n'est pas un patronyme corse évidemment. Le cardinal Fesch, c'est un patronyme suisse et la famille Bonaparte est une famille quand même à l'esprit particulièrement ouvert et qui domine à Ajaccio. Le reste de cette bonne bourgeoisie ou de cette petite noblesse provinciale, parce que Laetitia Ramolino, elle a perdu son père lorsqu'elle avait 5 ans. Son père est mort à l'âge de 32 ans. Et donc, sa mère, veuve Ramolino, née Pietrasante, donc nièce de ce ministre de Gênes et fille de ce notaire Pietrasante, qui était un grand personnage en Corse jusque pendant l'enfance de Napoléon. Eh bien, cette mère, elle s'est remariée, la veuve Ramolino, à un capitaine suisse, Fesch, et qui était protestant, ce qui montre quand même une grande tolérance, une grande ouverture d'esprit. Et Napoléon, là aussi, le dira dans le mémorial de Sainte-Hélène, disait « Ma grand-mère a épousé un protestant, autant valait-il épouser un turc ?» Parce qu'effectivement, c'était quelqu'un qui était regardé comme hérétique. Et donc, la petite Laetitia, on comprend que son caractère a été forgé très très tôt parce que cet enfant qui reste orpheline de son père, qui est élevé par un grand-père âgé, elle devait souffrir lorsqu'elle avait 13 ou 14 ans de voir ses petites camarades
railler son père à l'église, à la cathédrale d'Ajaccio, parce que il était suisse, il ne parlait pas le corse, il n'avait pas les mêmes gestes que le reste de la population dans la cathédrale au moment de la communion. Et donc, elle a un peu fui sa famille très très tôt. Elle est mariée à 14 ans, donc à Charles Bonaparte. Ils vont avoir donc à peu près 13 ou 14 enfants en une vingtaine d'années de mariage. Et parmi les enfants que sa mère va avoir avec son deuxième mari, il y a donc ce Suisse, cardinal Fesch, qui devient un cardinal romain tout en étant fils de protestant.
D'ailleurs, à Ajaccio, il y a le très bel hôtel du cardinal Fesch, qui est aujourd'hui un musée, qui est un bel endroit 18e.
Magnifique, magnifique. Le musée Fesch a été réalisé avec le testament du cardinal Fesch, qui a légué à peu près 16 000 œuvres, me semble-t-il, tableaux magnifiques des primitifs italiens. Le musée Fesch est aujourd'hui un musée qui arrive juste après le Louvre pour les primitifs italiens. Donc c'est quand même incroyable de voir cette splendide collection, avec d'ailleurs un excellent expert qui est M. Costamagna, qui est le directeur du musée Fesch et qui est un de nos meilleurs experts pour tout ce qui est le XVIe siècle en peinture. Et Fesch a également construit la chapelle impériale, puisque, comme vous le disiez en introduction, Charles Bonaparte est mort à Montpellier en 1785. Il est resté très longtemps enterré à Montpellier, puis après il a été transporté dans différentes propriétés, notamment de son fils Louis. Et enfin, je crois que c'est en 1951, donc très tardivement, qu'on a transporté la dépouille de Charles Bonaparte dans cette chapelle impériale construite par le cardinal Fesch, où il a rejoint son épouse, qui est Laetitia Ramolino, et on continue aujourd'hui à enterrer les actuels chefs de la maison Bonaparte, en particulier le père de l'actuel Charles Napoléon, qui est redevenu Charles Bonaparte il y a quelques années, en hommage justement à ce Charles Bonaparte, Napoléon n'étant qu'un prénom. Il a souhaité reprendre le patronyme de sa famille, c'est-à-dire Bonaparte et non pas Napoléon.
Alors, on l'a dit, Charles Bonaparte décède très jeune, il a 38 ans. Dans quel état laisse-t-il sa famille ? On se dit évidemment que pour l'épouse, se retrouver seule avec autant d'enfants sur les bras, c'est une situation un peu compliquée.
Oui, tout à fait. Donc, Laetitia, qui était née en 1750, c'est une femme qui a accouché de 14 enfants et qui, en 1785, reste veuve à 35 ans, avec vraiment une grande marmaille, si je puis dire, à ses côtés, puisque les derniers, Pauline, Lucien, sont des enfants qui sont tout petits à ce moment-là, qui sont vraiment, notamment Pauline en particulier. Et donc, il ne la laisse pas dans une situation de fortune trop inconfortable, parce que Laetitia, et ça on ne le dit jamais, va quand même réussir à verser à Napoléon, qui est jeune sous-lieutenant d'artillerie dans le sud de la France, une pension qui est quand même une pension annuelle de 1200 livres, c'est-à-dire légèrement supérieure à une solde de lieutenant des vaisseaux du roi, puisqu'un lieutenant de vaisseau touche 1000 livres par an. Cette petite fortune, elle est due d'une part à la très bonne gestion de Charles Bonaparte, qui a été un remembreur de terre à une époque où la notion de remembrement n'existait pas. À Ajaccio, je n'ai jamais trouvé que Charles Bonaparte qui agisse de cette façon-là. Il reconstitue tout le patrimoine d'origine des Bonaparte en échangeant des terres, je vous donne ce terrain en échange de celui-ci, un appartement de la dot de Laetitia en échange de ceci, et il arrive du coup à avoir une belle propriété de 23 hectares à la sortie d'Ajaccio actuelle qui s'appelle le quartier des Salines. Il y plante donc une pépinière de mûriers qui a été longtemps soutenue par le roi, puis finalement on s'aperçoit que les mûriers prospèrent bien en Corse, mais qu'il y a relativement peu d'acheteurs de mûriers. Et donc Laetitia souffrira évidemment de cet abandon par le roi, représenté en Corse par l'intendant de Corse, M. de Boucheporne. Elle souffrira de cet abandon des subventions. mais elle a quand même une des plus belles maisons d'Ajaccio. La maison des Bonaparte fait quand même 320 mètres carrés. C'est une des plus belles demeures, rue Malherbe. Elle continue à y vivre toujours avec l'aide du vieil oncle, car c'est Don Luciano qui devient le tuteur des pupilles Bonaparte. Il est le tuteur de Napoléon, de Joseph et des autres enfants. Il a accumulé lui-même une petite fortune en plus de son patrimoine ecclésiastique qui lui avait été donné par son propre père lorsqu'il avait prononcé ses vœux. Et donc Laetitia, on ne peut pas dire, contrairement à ce que l'on lit souvent, qu'elle était blanchisseuse ou qu'elle, on prétend parfois même que ses filles étaient au bord de la prostitution à Marseille à partir du départ de Corse en 1793-1794. Lorsqu'elles sont arrivées effectivement à Toulon, et lorsqu'elles sont arrivées à Marseille, les femmes devaient avoir une situation, et donc dès qu'on était une femme, eh bien on mettait couturière, et donc même à côté du mot de Pauline Bonaparte, qui est une enfant de 4 ou 5 ans, on écrit couturière parce que c'était quasi obligatoire pour les femmes. On le voit bien dans tous les recensements de population de la fin du XVIIIe siècle pour la Corse. Donc personne n'a jamais travaillé de ses mains dans la famille. Et la veuve de Charles va vivre assez agréablement à Marseille, à l'hôtel de Cipierre, lorsqu'elle va quitter la Corse. Et on la voit même un petit peu frivole, avec des tenues à la mode du directoire, qui lui vaudront quelques remontrances d'un commissaire de police de Paris, qui trouve qu'elle est un peu trop dénudée alors qu'elle se rend à l'opéra, et qu'il l'a pris d'aller se rhabiller chez elle et non pas de respecter la mode du directoire avec un sein à l'extérieur.
Oui, c'était effectivement une mode un petit peu originale. Merci beaucoup Michel Averger-Franceschi de nous avoir présenté cette vie de Charles Bonaparte, votre biographie Charles Bonaparte, père de Napoléon Ier, qui est paru aux éditions Passé Composé. Éditeur chez qui on peut également retrouver votre ouvrage consacré à Surcouf. Et puis, puisqu'on a évoqué Pozzo di Borg au cours de cette émission, vous l'avez là aussi consacré une biographie à cet ennemi farouche de Napoléon, comme quoi les pires ennemis pour Napoléon venaient de Corse. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions. À très bientôt.